Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, de nouveaux heurts à la frontière grecque où des réfugiés syriens ont été de nouveau pris pour cible par des forces de l'ordre. Reportage d'Angélique Kourounis. Et si la France prenait exemple sur l'Italie pour limiter autant que faire se peut la propagation du coronavirus ? Diane Berger s'est tournée vers l'épidémiologiste Antoine Flao. Quand deux associations rivales s'associent pour financer le culte musulman, le Conseil français du culte musulman et l'Association musulmane pour l'islam de France entendent mettre l'accent sur la formation des imams. À la mi-journée, Philippe de Botton, président de Médecins du Monde, a eu ces mots: avec cette crise de l'accueil et de la solidarité, l'Europe était incapable d'accueillir 1,2 ou 1,3 million de personnes. Alors qu'il y a 12 millions de réfugiés en Afrique, 62 millions dans le monde. Donc c'est vraiment la faillite d'une politique européenne répressive et totalement indigne. Fin citation. Il commentait ainsi les réalités endurées depuis des jours par des centaines de réfugiés qui se heurtent aux barbelés de la frontière grecque verrouillée. Des réfugiés syriens que la Turquie n'a pas retenus sur son territoire. C'est un reportage en Grèce, à Castagnès, d'Angélique Kourounis.
Après une accalmie de quelques heures, les tensions sont à nouveau de retour sur la frontière terrestre gréco-turque à hauteur du poste douanier de Castagnès, au nord-est du pays. Dans la matinée et en milieu d'après-midi, un tir nourri de gaz lacrymogène est parti du côté turc. Les policiers grecs ont répondu avec la même intensité et au moins trois camions de forces anti-émeutes ont passé la frontière en renfort. Des images montrant des policiers turcs empêchant par la force des migrants coincés dans la zone tampon de retourner en Turquie passent en boucle sur toutes les télés, aux côtés de celles montrant des migrants, des hommes jeunes, le visage caché, lancer des pierres et des bombes lacrymogènes sur la partie grecque ou encore essayant de mettre le feu sur la barrière de grillagé. Ces images, réelles ou pas, renforcent le sentiment anti-migrant de plus en plus fort au sein de la population locale, persuadée qu'il ne s'agit en aucun cas de réfugiés mais bien de clandestins. La plus grande partie des médias grecs, de par leur couverture, conforte ce sentiment. Pour autant, aujourd'hui, dans toutes les grandes villes de Grèce, ainsi que dans toutes les îles où se trouvent des camps d'identification de réfugiés, ont lieu des manifestations condamnant les milices d'extrême droite grecques qui chassent du migrant un peu partout dans le pays. Manifestations qui exigent aussi un accueil ouvert et décent des réfugiés. Ici, à Castagnès, les gens sont toujours sur le qui-vive. Ils sont tous convaincus que cette tension va s'installer et qu'à un moment ou un autre, il y aura un incident plus grave que d'habitude qui va mettre le feu aux poudres sur ces frontières.
L'État libanais a les poches vides et se voit dans l'impossibilité de payer après-demain 1,2 milliard d'eurobonds de dette. Les principaux dirigeants libanais s'opposent à ce que leur pays rembourse sa dette souveraine, annonce aujourd'hui de la présidence libanaise, ouvrant la voie à un défaut de paiement. Et puis il y a quelques minutes, le Premier ministre a déclaré œuvrer à la restructuration de la dette du Liban. Au lendemain d'un attentat à Kaboul dans lequel une trentaine de membres de la communauté Hazara sont décédés, l'une des minorités religieuses d'Afghanistan. Bonsoir Lina Taghi.
Bonsoir.
Dans quelles circonstances, c'est une question qu'on se pose au lendemain de ce drame, dans quelles circonstances, Lina, cette communauté chiite survit-elle dans un pays en conflit permanent ?
Ce n'est pas la première fois que les Hazaras sont pris pour cible. Dans le contexte de la guerre civile afghane et depuis le début de l'intervention américaine en 2001, plusieurs attentats ont visé cette minorité. Myriam Benrad est politologue, spécialiste du monde arabe.
Ce sont des violences qui se sont intensifiées avec la montée en puissance d'une insurrection djihadiste qui comprend aujourd'hui aussi en Afghanistan, on le sait, une branche État islamique qui, au cours des dernières années, a revendiqué un certain nombre d'attaques visant cette minorité, donc essentiellement chiite sur le plan confessionnel. Et l'État islamique étant dans une logique de guerre sectaire, confessionnelle, contre les chiites à travers l'ensemble du monde musulman, il n'est pas étonnant qu'ils prennent pour cible.
Les Hazaras représentent un peu moins de 10% de la population afghane. Ils forment une classe urbaine très précaire, mais à l'origine, ils viennent des régions montagneuses de l'Afghanistan. À cause des persécutions, ils ont dû s'exiler.
À partir du moment où l'enjeu de l'État moderne s'est posé, donc la construction de l'État moderne avec toutes les rivalités, tous les rapports de force qui se sont déployés autour de cela, les Hazaras, à partir, je dirais, du 19e siècle, ont commencé à être très clairement persécutés sur le plan politique avant tout, donc persécutés par ceux qui voyaient en eux des ennemis de l'État ou des, je dirais, des concurrents politiques potentiels.
Avec le retrait des troupes américaines, on peut s'attendre à ce que les Hazaras soient encore plus exposés aux violences des djihadistes. C'est à prévoir et c'est à craindre, selon Myriam Bensraad. Les Hazaras pourraient voir leur place encore plus réduite dans un pays où la violence est systémique.
Merci à vous, Linette Tagui. Un hôtel s'effondre à Quanzhou, dans le sud-est de la Chine. Près de 70 personnes sont ensevelies sous les décombres de cet immeuble qui servait de lieu de quarantaine pour des personnes suspectées d'être contaminées par le coronavirus. En France, un nouveau cas de contamination a été détecté à l'Assemblée nationale, ce qui porte à 3 le nombre de cas avérés au sein du Parlement. Le nouveau cas confirmé est celui d'une députée actuellement hospitalisée. À partir de lundi, les établissements scolaires seront fermés dans l'Oise et le Haut-Rhin. Dans toute la France, les droits de visite sont limités dans les établissements de santé. Les rassemblements en intérieur de plus de 5000 personnes sont interdits jusqu'au 15 avril. Concerts, festivals, salons. La liste des événements annulés s'allonge, conséquence des mesures de l'exécutif contre la propagation du coronavirus. Ces mesures sont-elles seulement efficaces ou au contraire faut-il faire plus? Bonsoir Diane Berger.
Bonsoir.
Diane, vous avez sollicité le professeur Antoine Flao, épidémiologiste à la tête de l'Institut de Santé Globale de Genève.
Et pour ce spécialiste, les gestes de l'exécutif sont justifiés. On pourrait même aller plus loin. La France pourrait s'inspirer de l'Italie, où les écoles de tout le pays sont carrément fermées. Certaines villes confinées, on ne peut plus ni y rentrer, ni en partir. Alors, ces mesures sont radicales, certes, mais pour Antoine Flao, l'histoire a prouvé leur efficacité, notamment le siècle dernier face à la grippe espagnole.
Pendant la pandémie de grippe de 1918, on n'avait ni vaccin ni antiviraux, donc on peut presque dire qu'on en était au même point. Si vous regardez les données qui ont pu être collectées grâce à des historiens, des archivistes, des épidémiologistes, dans des villes des États-Unis qui avaient appliqué ces mesures, eh bien on a pu voir que les villes qui avaient appliqué ces mesures précocement et durablement dans l'épidémie avaient eu une mortalité toutes causes confondues, très inférieure.
Preuve en est également, selon lui, le cas de la Chine. Depuis l'application des mesures de confinement, le nombre de contaminations ralentit. Mais il le reconnaît, ces décisions font aussi des dommages collatéraux.
Toutes ces mesures qui paraissent extrêmement lourdes et qui le sont sur le plan économique vont avoir un intérêt sanitaire global qui sera absolument essentiel pour pouvoir supporter le choc. Des gens diront que le coût économique investi par la Chine pour lutter contre cette épidémie rapporté au nombre de victimes était très disproportionné. En revanche, si grâce à cela la Chine a permis de ralentir une vague pandémique dans le monde entier de la dangerosité qu'avait la grippe pandémique de 1918, alors l'ensemble du monde trouvera que ça valait bien quelques points de croissance sur l'année 2020.
Et l'épidémiologiste s'interroge sur le port du masque. En Europe, il n'est recommandé pour l'instant qu'aux personnes qui présentent des symptômes. Alors, face au nombre potentiellement élevé de porteurs sains du virus, ne faudrait-il pas, selon lui, imiter certains pays asiatiques et demander à toute la population d'en porter dans la rue?
Merci à vous, Diane Berger. Deux associations rivales qui s'allient pour financer le culte musulman. Il s'agit du Conseil français du culte musulman et de l'Association musulmane pour l'islam de France. Ces deux structures viennent de se mettre d'accord pour créer une troisième association avec un but de permettre la formation en France d'imams français. C'était d'ailleurs une demande du chef de l'État. Antoine Maret a joint au téléphone le président du CFCM, Mohamed Moussaoui.
Les fonds qui sont aujourd'hui identifiés, c'est surtout des fonds du marché de consommation en lien avec la pratique religieuse. Pour l'instant, ce qui est clairement identifié, c'est le pèlerinage, avec la possibilité de financer une partie du culte musulman par cette redevance de pèlerinage. Viendra peut-être ensuite la redevance halal. Et puis, il ne faut pas négliger les dons des fidèles français. Nous avons exclu d'emblée les financements venant des pays étrangers, en dehors des pays qui ont déjà des accords historiques et traditionnels avec la France.
Cette initiative, c'est une réponse au discours d'Emmanuel Macron à Mulhouse le 18 février dernier, qui réclamait la fin des influences étrangères sur l'islam en France.
C'est une réponse aux attentes du président de la République, mais surtout une réponse aux attentes des musulmans de France. Je pense que le culte musulman a besoin de se donner les moyens de son émancipation, le moyen de répondre aux nombreuses attentes des musulmans de France en termes de formation des cadres religieux en France, en termes de construction de lieux de culte, en termes de lutte contre tous les extrémismes qui instrumentalisent la religion musulmane. lutte aussi contre la haine, contre les musulmans. Donc sur toutes ces questions-là, les musulmans de France attendent du Conseil français du culte musulman et des institutions musulmanes qu'elle agisse avec efficacité.
Quelques mots de la météo pour refermer cette édition. Temps de nouveau perturbé demain avec un passage pluvieux suivi d'averses qui traversera tout le pays. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau, à la technique Anthony Thomasson.